Ok, c'est qu'on va continuer notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Ce soir, on va continuer dans la Genèse. Je veux réviser cette partie-là parce que c'est une partie très importante pour l'étude de la Bible. Parce que dans la Genèse, on commence déjà à rencontrer ce qu'on appelle en théologie la typologie ou des types. Type et antitype. Et si on comprend pas ça, on manque un gros bateau. En tout cas, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, parce que c'est important dans l'étude de la Bible d'avoir ces choses-là en main. Donc, ce qu'on regarde ce soir, c'est l'utilisation de la typologie. Alors, ce qu'on va commencer par regarder, c'est une définition. Après, on va expliquer un petit peu en quoi consiste cette définition-là. Donc, quelques notions fondamentales sur la typologie. La définition, on pourrait définir ça comme suit. Une personne, un événement ou une chose de l'Ancien Testament ayant une réalité historique avec une intention divine pour prédire ou préfigurer préparatoirement une vraie personne, événement ou chose qui correspond dans le Nouveau Testament et l'accomplit est désigné spécifiquement comme tel dans le Nouveau Testament. J'avoue que quand on n'est pas très habitué avec le concept de typologie, ça fait beaucoup de choses à retenir. Mais dans le fond, dans tout ce que je vous ai dit, là, il y a six éléments qui sont présents à l'intérieur de cette définition-là. Et on les reprend. Dans le fond, quand on dit des fois, on rencontre des choses dans l'Ancien Testament, on dit que c'est un type, et quand ça s'accomplit dans le Nouveau, on appelle ça, Christ devient l'antitype. Alors, on va regarder les six éléments qu'il y a dans une typologie, et la Bible est bourrée de typologie. Alors, si quelqu'un comprend rien à la typologie, il y a ben des grands bouts qui vont passer, il va passer par-dessus, puis il ne comprendra rien. Donc, les six éléments sont les suivants. Il y a une ressemblance entre la personne, la chose ou l'événement. Ça a une réalité historique. Si tu recules dans l'Ancien Testament, ça s'est passé dans le temps. Une réalité historique dans l'histoire. Et il y avait une intention divine. En anglais, ils disent designed by God. Autrement dit, le Seigneur lui-même a dessiné une intention pour présenter la chose ou la personne ou l'événement de l'Ancien Testament pour révéler quelque chose sur quelque chose qui va s'accomplir dans la personne de Christ dans le Nouveau. Alors, on appelle ça le type, l'antitype. La quatrième affaire, c'est pour prédire ou préfigurer préparatoirement une vraie personne, un vrai événement ou une chose. On va expliquer un petit peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, et qui correspond dans le Nouveau Testament et l'accomplit. La meilleure façon, tout à l'heure, je vais vous donner des exemples, ça va devenir concret, parce que quand on part d'une définition, c'est toujours un petit peu abstrait, là, mais quand on y va avec des exemples, vous allez très bien comprendre assez rapidement en quoi ça consiste. Et le sixième élément, c'est que c'est désigné comme tel dans le Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament dit que Jésus-Christ est en train d'accomplir soit cette personne-là, soit cette chose-là, soit cet événement-là qui est dans l'Ancien Testament. Donc, le type, normalement, va se distinguer du symbole ou de l'illustration. On va prendre des exemples de ce qu'on a dit tantôt. On a dit que c'était soit une personne, soit un événement, ou soit une chose de l'Ancien Testament. On va prendre des exemples des trois, vous allez comprendre. Alors, on parle d'exemple de personne. Souvent, on va dire, comme par exemple, un exemple, Joseph, dans l'Ancien Testament, est un type de Jésus. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui concernent la vie de Joseph qui a des très grandes ressemblances avec la vie de Jésus-Christ. Arthur Pink, dans un livre qui est écrit de Gleanings in Genesis, il a écrit un livre à peu près de 500 pages Et la dernière partie de son livre parle des ressemblances qu'il y a entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. Je pense qu'il a trouvé 101 correspondances. C'est extrêmement intéressant quand on embarque dans ces choses-là. Une autre affaire que la Bible elle-même dit que c'est un type, c'est le personnage de Melchisédek. Quand on le lit, quand on passe dans le livre de Melchisédek, quand on passe dans la Genèse, on rencontre le personnage de Melchisédek. Mais quand vous étudiez le livre de Hébreux, on dit que Jésus est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Si tu fais juste lire le Nouveau Testament, puis tu lis selon l'ordre de Melchisédek, puis tu sais pas Melchisédek que c'est un type de Christ, puis que ça représente Christ sous plusieurs facettes, à quelque part, tu surfes par-dessus, tu comprends rien du tout, là. Alors, c'est très important d'au moins savoir que ça existe. Par exemple, si vous allez, j'ai, vous donnerai les feuilles après, j'ai deux livres à la maison, des briques, ça dépaisse, là. Il y en a un qui a été écrit par un pasteur baptiste anglais qui s'appelle Benjamin Keach. Il a vécu entre 1640 et 1704. Tous les types de la Bible, il les a sortis, il les a étudiés en profondeur, et c'est d'une richesse presque incroyable. Disons que vous passez sur le personnage de Melchisédek, puis que vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe pour la mention dans Hébreux, puis que le personnage est un personnage de la Genèse. Ben là, lui, là, il va vous aider énormément. Et il fait avec tous les types. Alors, c'est un réformé baptiste intéressant. Hein? C'est nos ancêtres réformés baptistes d'Angleterre. Puis il y en a un autre qui est un Écossais qui a publié un livre, lui aussi, qui s'appelle Typology of Scripture. Alors, deux bonhommes que je respecte énormément, très forts en théologie, qui prennent tous les types des Écritures et qui les. Il les étudie, il les explique. Alors, quand tu fais un texte, tu étudies un texte, puis qu'il y en a un type dans le texte que tu étudies, ça aide énormément. C'est d'une intelligence. Ça a été fait par des théologiens, ça a été développé au cours des siècles pour qu'on puisse arriver à mieux comprendre la Bible. Donc, on parle de personnes. Donc, on vient d'en donner deux, mais il n'y en a plus que ça, là. J'en donne deux, c'est des exemples que je vous donne. Joseph est un type de Christ. Melchisédek est un type de Christ. Donc, on dit des choses qui sont dans l'Ancien Testament et qui étaient désignées par Dieu pour représenter des choses qui concerneraient la personne de Christ et qui s'accompliraient en lui. Très important de voir la lien entre le type et l'antitype. Par là, on vient de voir des personnes. Maintenant, on va regarder on dit qu'il y avait des événements. Ça, je pourrais vous en parler longtemps parce que j'ai étudié en particulier le tabernacle. Quand on regarde le tabernacle, quand vous lisez le tabernacle dans Exode, à partir du chapitre 25, aller jusqu'au chapitre 40, c'est l'explication de la tente d'assignation avec tout ce qu'il y avait dedans, avec le chandelier, la table des pains de proposition, l'autel des. Et tout ça, là, c'est toutes des choses qui nous parlent d'un aspect ou d'un autre de l'œuvre de Christ et de la personne de Christ. Si vous lisez, moi, je me souviens la première fois de ma vie, là, il y a un pasteur de Sherbrooke qui il avait dit, je vous conseille très fortement de commencer à lire votre Bible d'un couvert à l'autre. Ben, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un jour. J'ai commencé à le faire dès le lendemain matin. À un moment donné, je me souviens quand je suis arrivé sur ce chapitre-là, Exode, le début, ça va bien, là, t'as toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais quand tu arrives au chapitre 25, là, et que là, il commence à. Dieu dit à Moïse comment il lui donne le modèle à construire exactement comme lui il lui a présenté. Bien souvent, tu lis ça, là, la première fois, là, et tu comprends absolument. Moi, en tout cas, dans mon cas, là, j'ai rien compris. C'est l'étude qui fait que tu étudies d'autres commentateurs qui ont étudié le même passage et qui connaissent ce qu'on appelle la typologie et qui te montre que tous les aspects du tabernacle qui sont décrits représentent un aspect ou un autre de la personne de Christ, mais qui vont s'accomplir dans le Nouveau Testament. C'est une valeur qu'on n'a pas le temps de développer parce que ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, des événements. Donc, la Pâque juive, c'est un type. Parce que quand on regarde, quand on prend le repas du Seigneur est basé sur quoi? Il est basé sur la Pâque juive dans Exode 12, où on disait que chaque juif de l'époque se devait de prendre un agneau, de l'égorger, et se devait et toute l'histoire qui est dans Exode 12. Bien, le Seigneur, quand il a institué le repas de la Pâque, là, bien, c'était la Pâque juive qui faisait. C'était Exode 12. Il faut que tu fasses le lien entre les deux. Plus tu vas faire le lien entre les deux, plus tu vas comprendre le sens de ce que c'est le repas du Seigneur. Pour moi, c'est clair comme l'eau de roche. Donc, la Pâque juive, toutes les fêtes qui sont mentionnées dans le livre de l'Exode ou dans le livre de Lévitique, toutes les fêtes, ça représente un aspect ou un autre de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ aussi. Lévitique, quand vous arrivez sur Lévitique, vous autres, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais avant d'étudier toutes ces choses-là, les offrandes de farine, puis tu comprends absolument rien là-dedans, mais tant que tu n'as pas introduit l'idée que toutes ces choses-là parlent de Jésus-Christ, tu ne trouves pas ça tellement intéressant. Mais quand tu commences à comprendre que toutes ces choses-là représentent un aspect ou un autre de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ, ça devient passionnant. Pourquoi, comme je disais tantôt, un type, c'est désigné par Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui veut que toutes ces choses-là nous parlent de Christ d'une façon que le Seigneur a révélé les choses graduellement. Comme par exemple, quand on arrive... La table des pains de proposition. En tout cas, on ne rentrera pas là-dedans. Je me rends compte qu'on n'en va pas là-dedans. OK. Tu avais les trompettes, les expiations, le sabbat. OK. Là, on vient de voir des exemples de personnes. On vient de voir des exemples d'événements. Donc, la Pâque juive, les fêtes, toutes les fêtes qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et il y avait aussi le sabbat. Et il y en a d'autres. Et des exemples de choses. Celle-là, je la connais un petit peu plus parce que je l'ai étudiée pendant un an. Le tabernacle, le voile du temple. Quand on lit dans le Nouveau Testament que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, à quoi on fait référence, là? On fait référence dans Exode où on nous montre le tabernacle et il y avait un rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints. Puis dans le Saint des Saints, il y avait le... En tout cas, encore là, je vous rentre pas là-dedans, là. Mais ce que je veux dire, c'est que le tabernacle, c'est une étude qui ne parle que de Christ. Si vous lisez Exode 25, allez jusqu'à Exode 40... que vous ne voyez pas la personne de Christ là-dedans, vous passez complètement à côté. Mais quand on dit que c'est désigné par Dieu, Dieu a voulu nous présenter des choses sous forme d'objets pour nous présenter un aspect de la personne ou de l'œuvre de Jésus-Christ. Très important de saisir ça. Et aussi toutes les offrandes dans Lévitique, l'Holocauste, l'offrande de farine... L'offrande d'action de grâce, l'offrande d'expiation, l'offrande de culpabilité. Ça se peut qu'on lise ça, là, puis qu'on comprend rien du tout. C'est malheureux, parce que on se devrait de voir Christ dans toutes les pages des Écritures. Mais la typologie, c'est là pour ça, pour nous montrer que toutes les Écritures nous parlent de Christ. Alors, deux excellents outils, je vais vous les donner dans les feuilles, là. Il y a le livre qui s'appelle « Preachings from the Types and Metaphors of the Bible », qui est Benjamin Keach, qui est un réformé baptiste anglais du 17e siècle. Et il y a aussi le pasteur écossais qui s'appelle Patrick Fairbairn, que lui écrit un livre de 500 pages sur le même sujet. Deux excellents livres, j'hésite les deux à maison. Si jamais il y en a qui lisent l'anglais, puis ça les intéresse de regarder ça, c'est d'une richesse à vous tomber sur le dos, je vous le dis. C'est, 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 On n'est pas les premiers qui étudient la Bible, vous savez. Donc, la typologie. Dans le livre de la Genèse, juste pour qu'on comprenne que quand on étudie le livre de la Genèse, il y a beaucoup de typologie. Et quand tu commences à comprendre ça, bon, par exemple, Adam est un type de Christ. Parce qu'on dit de Christ qu'il est le second Adam. Donc, Adam est le type de Christ. Il y a des certaines ressemblances, puis il y a certaines dissemblances aussi. En tout cas, après ça, il y a Ève, qui est le type de l'Église. Après ça, il y a Caïn et Abel, qui est le type du charnel versus le spirituel. Ensuite, tu as Enoch, tu as les survivants du déluge, tu as Lot, tu as Melchisédek, tu as Agar et Sarah. La preuve que ça existe, là, c'est parce que Paul en parle dans les Épîtres. Il dit lui-même, lorsque Agar représente l'ancienne alliance, si on comprend pas tous ces principes-là, là, quelque part, on a de la difficulté à comprendre ce que Paul est en train de dire. C'est des symboles qui représentaient, et c'est désigné par Dieu. C'est ça qui est important à réaliser. Donc, après ça, tu as Ismaël, tu as Isaac, Abraham, Isaac, le serviteur d'Abraham, Rebecca, Joseph. Donc, les types, je viens de vous en nommer là, pour les personnes qui sont dans le livre de la Genèse. Il y en a plusieurs, beaucoup. Après ça, il y en a aussi pour les objets. Le soleil, la lune, les étoiles, le sabbat, le manteau de Joseph, le déluge, l'arche. Vous avez sûrement déjà entendu parler le déluge, l'arche, que l'arche représente Christ, ceux qui sont rentrés dans l'arche et eux qui ont été sauvés du jugement. Donc, c'est un type. Ça représente Christ, ça a eu une existence historique, mais ça représente quelque chose qui va s'accomplir uniquement dans le Nouveau Testament. Donc, on a le déluge, on a l'arche, le corbeau, la colombe, le feu de Sodome, l'Égypte, qui est le type du monde. Souvent, on va dire, ils ont sorti le peuple d'Israël d'Égypte. C'est une image pour utiliser que le Seigneur va prendre des âmes, il va les sortir du monde et il va les emmener en Christ en suivant le Seigneur. Bon, en tout cas, on pourrait aller plus en détail là-dedans. En tout cas, vous donnez le premier exemple sur les survivants du déluge. Quand je vous donnerai les feuilles, vous regarderez ça. Il y a des parallèles qu'on fait entre, par exemple, les survivants du déluge et l'Église de Jésus-Christ. Et quand on regarde ça, là, on voit qu'il y a de l'intelligence là-dedans. Mais on comprend qu'il y a de l'intelligence, c'est fait par Dieu. Et le but de ça, c'était tout pour nous montrer des choses qui concernaient son Fils, qui était à venir. Donc, le type, c'est l'Ancien Testament. L'antitype, c'est quand ça s'accomplit en Jésus-Christ. Toutes ces images-là prennent une dimension très intéressante. On a l'exemple de Joseph. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je vais vous donner les feuilles. Vous allez pouvoir regarder par vous-même tout cela. Donc, la vie de Joseph, comme celle de Christ, est divisée en différentes parties. Vous allez pouvoir regarder tout cela. Ça ne donne rien de rentrer dans les détails de tout cela ce soir, parce que il y a beaucoup de versets, et vous allez pouvoir, avec l'aide des feuilles, vous allez pouvoir comprendre tout ce qu'il y a d'impliqué là-dedans. Puis même si je vous aurais donné les feuilles, on ne pourra pas tout regarder ça ce soir, il y en a trop, là. Mais avec les feuilles, vous allez pouvoir vous asseoir puis regarder. Ah oui, c'est vrai, la vie de Joseph, elle représente tel aspect de la vie du Christ. Bon, on va regarder maintenant sept grands personnages de la Genèse qui sont des illustrations, des stades progressifs de l'expérience spirituelle. Ça aussi, on pourrait rentrer dans les détails. Abel, qui signifie souffle ou vapeur, c'est l'homme de désir spirituel. Enoch, son nom signifiait, en anglais, c'est dedication, ou ben non, consécration. Donc, c'est l'homme de choix spirituel. Quand vous regardez les noms, leur signification et le cheminement qu'il y a d'un nom à l'autre, qui raconte un peu notre cheminement dans la vie chrétienne. Quand on voit ça, là, la première fois qu'on voit ça, là, c'est fascinant. Dieu parle même avec le nom des individus. Il y a des choses extraordinaires à découvrir là-dedans. Très, très, très extraordinaires. Noé, qui signifie repos, tranquillité, c'est l'homme du renouvellement spirituel. Abraham, dont le nom signifie ami de Dieu, l'homme de foi. Isaac, dont le nom signifie rire, l'homme de filialité. Jacob, dont le nom signifie celui qui supplante ou que Dieu garde ou protège, c'est l'homme de service, occupé de ses mains, fatigué. Allez, bon, je vais vous laisser regarder tout ça, parce que c'est très intéressant, surtout si vous prenez un moment pour réfléchir à ce qui est enseigné dans tout ça. Et Joseph, après ça, on a l'exemple de Joseph. Donc, autrement dit, ce que je veux vous retenir à soir, c'est qu'on peut étudier les livres de l'Ancien Testament à la lumière de la typologie. Retenez juste ça, c'est assez important. Puis après ça, si vous rentrez un petit peu dans les détails de qu'est-ce que c'est la typologie, vous allez vous passionner par le sujet. Ensuite, il y a d'autres facettes ou d'autres façons d'étudier le sujet de la Genèse. Vous pouvez faire, par exemple, une étude biographique. Puis prendre un personnage, Abel, Abraham, Isaac, Jacob. D'ailleurs, ça a été fait par, si vous regardez, là, j'en ai des livres à maison qui ont été faits par des théologiens ou des pasteurs américains ou français qui ont pris un personnage, par exemple David. Ils ont pris David, ils ont sorti tout ce que la Bible dit sur David dans l'Ancien Testament. Et là, ils font des parallèles avec la vie de Jésus-Christ. C'est passionnant. C'est passionnant qu'est-ce qui sort là, des fois de « Ah, c'est vrai, ah, j'avais jamais vu ça ». Très intéressant. Alors, il y a des études biographiques, donc Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Tout de suite là, tu pourras prendre tous ces personnages-là, de sortir tout ce que la Bible dit sur chacun des personnages, et aller chercher des leçons pour notre vie spirituelle, qu'il y a des choses qui sont similaires entre leur vie et la nôtre. Ensuite, tu peux faire des études thématiques. Thématiques, ça veut dire que tu prends un thème d'un livre, la Genèse, tu sors le thème. Par exemple, ça pourrait être les desseins de Dieu. Quelles étaient les intentions de Dieu? Tu peux prendre le même livre, puis tu peux étudier les desseins de Satan. Comment Satan a travaillé à l'intérieur du livre de la Genèse. Ensuite, tu peux prendre les progrès du péché. Comment le péché a évolué? Genèse 3, la tentation. Il y a quelque chose d'intéressant à étudier là. Après ça, tu prends, quand tu arrives à Genèse 11, où on a la tour de Babel. Excusez-moi, ça a pris un peu de temps avant de sortir, là. Mais la tour de Babel. Et c'est plein de choses comme ça à étudier. Alors, on peut étudier la Bible, les personnages, des biographies. On peut étudier la Bible sous des thèmes, le péché, la corruption du cœur humain. Prenez juste ce thème-là, la corruption du cœur humain, puis sortez tout ce qu'il y a dans le livre de la Genèse, là-dedans, vous allez être surpris. Alors, on peut étudier la Bible sous bien des facettes. Il y a aussi, on pourra faire une étude prophétique. Les prophéties qu'il y a dans le... Un exemple, Genèse 3, 15, où le Seigneur est en train de dire qu'il va envoyer son Messie pour corriger le problème de l'introduction du péché dans la vie des hommes. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein de prophéties dans la... Donc, concernant... Les prophéties concernant la terre, concernant Israël, concernant les nations, concernant les tribus, c'est... Alors, rien que pour vous dire que la Bible est un livre inépuisable d'études. On vient de finir une étude, là. On a passé quasiment 95 leçons, je pense, juste sur le livre de la Genèse. Pensez-vous qu'on connaît le livre de la Genèse? Un peu mieux qu'avant. Mais encore, plein de choses à découvrir. C'est ça le but d'étudier un survol comme ça, c'est de nous montrer la richesse du livre, la richesse, la beauté, la grandeur. Ça parle de Christ partout. Plus on découvre ça, plus on trouve la Bible intéressante. Donc, des études, tu peux faire une étude prophétique, tu peux faire une étude géographique, tu peux faire une étude critique, une étude textuelle, une étude culturelle, une étude doctrinale. Autrement dit, le livre de la Bible est un livre inépuisable que tu peux étudier sous une multitude de facettes, toutes plus intéressantes les unes que les autres, et toutes plus éclairantes les unes que les autres. Parce que plus tu vas comprendre, disons, on parle d'une étude géographique, tu dis, qu'est-ce que ça va me donner de comprendre comment, dans quel pays, que toutes ces affaires-là passent? Ça va te donner de comprendre que tu vas comprendre. C'est ça que ça va te donner. Et trois applications. Le livre de la Genèse, parce que là, c'est le livre qu'on a examiné depuis quelques semaines, c'est un livre extrêmement riche. Et c'est la fondation sur laquelle nous construisons notre foi. Il mérite que nous l'étudions, que nous le méditions et que nous nous appliquions à nos vies ces innombrables leçons. Dans les 95 sermons qu'on a faits sur la Genèse, on n'a pas retenu une leçon, là. Quelque part, on a manqué de bateau, là, parce qu'il y en a plein de leçons. Deuxième application, Christ est le thème de tous les livres de la Bible. Cherchons-le et nous le découvrirons dans toute sa beauté et dans toute sa majesté. Moi, je suis convaincu aujourd'hui plus que jamais, avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai étudié, que une des raisons pour lesquelles on comprend si peu l'Ancien Testament, c'est parce qu'on ne cherche pas Christ. Christ est vraiment le fil conducteur de toutes les Écritures, et si on médite tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament et qu'on cherche Christ là-dedans, dites-vous une chose, si vous avez quelques outils, parce que ça aide les outils aussi, dictionnaire et plein d'autres choses que je vous ai dit l'autre jour, là, interlinéaire et plein de choses, il ne faut pas avoir peur d'investir un petit peu dans des livres, ça ne mord pas un livre. Là. Alors, troisième application, un bon conseil, le lire tout d'un trait. Ça fait plusieurs fois que je rencontre ce conseil-là venant de grands théologiens. Ils disent que c'est excellent de s'habituer de lire un livre de la Bible tout d'un trait. Pourquoi? Parce que tu as l'image d'ensemble. C'est ce qu'on fait assez rarement. Mais c'est quand même pas si long que ça, lire le livre de la Genèse d'un trait. Là. C'est quelques heures, deux heures. C'est pas la fin du monde lire deux heures. J'ai déjà lu deux heures sur des affaires bien plus niaiseuses que ça. Là. Et? Alors, s'habituer à lire un livre des Écritures, là, surtout dans le Nouveau Testament, rien de plus facile. Éphésiens, 6 chapitres. Qui n'est pas capable de lire Éphésiens d'un trait? Mais ça change tout. Parce que quand tu lis Éphésiens tout d'un trait, tu vois la pensée de l'auteur se développer. Puis tu perçois de façon très claire le côté doctrinal. Les premiers chapitres sont toujours doctrinaux dans les épîtres de Paul. Puis les derniers chapitres sont toujours pratiques. Dès que tu vois ça, Paul commence par t'instruire. Ensuite, il te montre que ce qu'il vient de te dire pour t'instruire, il y a des aspects pratiques à ça. Donc, le livre de la Bible nous mérite d'être lu et médité. Que notre grand Dieu soit béni, loué et adoré. Pour nous avoir donné le Saint-Livre, ne le négligeons pas, par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Amen.